Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. Allez, on est parti sur le générique. Saisis, on...
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Et oui, on joue là, c'est sérieux. Bienvenue sur le 101.5 de Radio G, bienvenue dans les voies du scénarium. J'allais dire, l'émission qui parle truchement des ondes radiophoniques va propulser les plus belles images de l'imaginaire dans votre tête. C'est aussi surtout le lieu où on écrit, on forge et on joue les histoires. Je suis en compagnie de Nolwenn. Salut Nolwenn.
Bonsoir, bonsoir.
Ça va?
Ça va et toi?
Super. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
J'ai hésité à te passer la parole ou pas.
Si,
j'ai voulu être taquin ce soir.
Si, il faut laisser un peu la parole.
Ce soir, on a une émission un peu de folie en fait, on a beaucoup de guests, on a une chronique de Nolwenn, mais aussi une chronique de Richard, c'est juste fabuleux. Je n'ai qu'une seule déception, elle vient de moi-même, c'est que ce soir, je voulais mettre des musiques d'une série que j'ai trouvée excellente et que je ne ferai pas, parce que ça passera juste pas à la radio tellement c'est trash.
Ah.
Est-ce que vous avez vu Has Been Hotel?
Oui, enfin, je connais.
J'ai vu et il s'avère que alors je sais plus quel personnage mais il y a une actrice de Javras dedans.
C'est vrai?
Ouais.
Non.
Si.
Sur la VF du coup.
Ouais.
OK, sur la version US ça m'aurait
Non, sur la VF. En fait de base Has Been Hotel était commencé à être doublé de façon amateur sur YouTube.
Ouais.
Et ils ont repioché dedans.
Mais c'est trop bien.
Et donc c'est Maïev qui faisait partie de Javras, il fut un temps et qui est parti mais pour le coup
Eh ben c'est fabuleux ça. Moi je trouve ça juste génial. Pour la petite anecdote et puis après on va pas forcément s'éterniser dessus. Il faut quand même savoir que le personnage principal, à savoir Charlotte Morningstar, mon anglais est décidément désastreux.
Quelconque lien de parenté avec Lucifer?
C'est sa fille en fait. Mmh. C'est simplement sa fille. En français, elle est doublée par Anaïs Delva.
Oui, d'accord.
Donc, une des nanas qui a fait un des trucs les plus mignons de chez Disney fait aussi un des trucs les plus trash de pas Disney. Voilà. Je ne sais pas dans quel ordre on va travailler ce soir.
Elle a fait ce personnage-là.
Je l'ai pas vu encore ce personnage. J'ai pas tout fini parce que
celui-là, il est dès le début, il me semble.
Attends, fais voir. Mais il me montre des trucs. C'est pas très radiophonique ça.
Non.
Ah oui, c'est Angel Dust.
Ouais, c'est ça.
Ok. Je me suis passé sa chanson dans la radio, dans la voiture tout à l'heure. Et ça fait partie des chansons qu'on peut pas passer du tout à la radio.
Oh, dommage.
Ah non, du tout.
La prochaine fois, il faudra faire une émission qui se passe à 23h.
Eh bien, ouais, on peut faire un truc comme ça. Je sens Nolwenn qui trépigne de. T'as envie de. À fond ta chronique ou tu veux qu'on fasse autre chose d'abord?
Oui, pourquoi pas, oui. On attaque là direct?
À fond, balle.
Ok.
Allez, on est parti. Ton générique, qui n'est toujours pas sur le Smurf, mais dans le Schnurf.
Faut que tu regardes dans le Schnurf.
Oui, voilà. Très important.
Et surtout, faut pas ponter la carte mère.
Pas ponter la carte mère, parce que ça peut faire sauter l'assurance. Et alors là, y a pas d'assurance, quoi.
Générique. Si on rebranche pas les micros, ça marche pas. De quoi tu nous parles ce soir?
C'est un peu spoilé, mais puisque les gens dans le chat, vous pouvez discuter dans le chat.
Ouais, n'hésitez pas.
Les gens dans le chat sont devinés, peut-être parce que je leur ai dit par avance.
Alors, on souhaite la bienvenue à Eowyn qui a deviné avant même qu'on lui pose les questions.
C'est parce que je lui ai dit avant l'émission.
Voilà.
Mais oui,
garde
oui.
Ta langue.
Va falloir que vous preniez votre cape, votre lanterne et votre crucifix, car je vous emmène étudier une espèce aux mœurs nocturnes et discrètes. Elle a une apparence humaine, des canines bien développées, une peau pâle et est intolérante à la lumière du jour. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit des charismatiques vampires. Alors, les vampires, ils ont eu droit à pléthore de représentations dans la pop culture, et pour la plupart, ils sont bien stéréotypés. Et les mêmes critères peuvent revenir. D'ailleurs, dans Donjons et Dragons, il va y avoir des clichés qui sont bien ancrés pour cette espèce. Par exemple, ils sont hypersensibles au soleil, mis hors d'état de nuire si on leur plante un pieu dans le cœur, mais ils ont aussi la capacité de se métamorphoser en chauve-souris et ils possèdent un grand charisme naturel. Ainsi sont les signes distinctifs de cette espèce. Et j'en profite pour inviter les plus curieux et curieuses des rôlistes à aller prendre connaissance de la fiche espèce sur le site aidedd.org parce que vraiment, ça peut être un personnage assez puissant à intégrer dans vos parties.
Et Owen soulève un point sémantique, on dit photophobique.
Photophobique, c'est plus rapide à dire, effectivement. Donc, les vampires sont photophobiques, c'est peu commun à entendre, mais pourquoi pas. Et du coup, on revient à la description de Donjons et Dragons parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai lu l'affiche absolument démentielle de cette espèce, de ces personnages. Je vais citer « La victime de la morsure d'un vampire, si elle est enterrée, devient la nuit suivante un vampirien sous son contrôle. Mais lorsque ce vampire meurt, ou plus rarement s'il permet à son vampirien de boire son sang, le vampirien se convertit en vampire à part entière, libre de ses actes, mais toujours condamné à la nuit éternelle. » Et là, je n'aurais qu'une question à poser. Où est-ce qu'il est mention d'une quelconque reproduction? Non, parce que moi, je suis censée faire une chronique sur les espèces fantastiques. Hein, et pas de reproduction, pas de descendance, pas d'espèces, pas d'espèces. Pas d'espèces.
Allez, laisse-leur une chance aux vampires. Ils sont cool.
Oui,
enfin,
oui,
je crois.
Oui, ils sont plutôt cool, oui. Ben, on va voir un peu comment on peut... On peut imaginer ces créatures possibles sans passer par le critère reproduction. D'un point de vue biologique, il serait plus probable que les vampires soient des humains parasités ou malades. J'en profite pour citer aussi un roman qui aborde ce sujet avec une rigueur scientifique absolument admirable. Il s'agit du roman « Je suis une légende » de Richard Matheson. Et l'histoire raconte le quotidien du seul survivant d'une épidémie qui a fait ravage sur la planète, transformant les humains, en vampires assoiffés de sang. Et en fait, au cours de ce roman, le héros va enquêter sur l'origine de ces vampires et va découvrir que le vampirisme est dû à un bacille.
Bacille, c'est pas le genre de bactérie qui provoque la peste ?
Tout à fait, et c'est un bon exemple pour illustrer les conséquences d'une contamination par bacille. Pour celles et ceux qui verraient pas trop ce que c'est, il s'agit d'une bactérie qui est en petit bâtonnet, à la différence des bactéries qui sont de forme ronde. Celle dont tu parles pour la peste, c'est Yersinia pestis, qui va provoquer cette maladie redoutable. Mais on connaît aussi la bacille de Koch, où celle-ci est responsable de la tuberculose. Donc, première piste du coup pour expliquer l'origine des vampires, une contamination par bacille. Et moi, je voudrais aussi proposer la piste de la parasitologie en citant la grande douve de l'intestin. C'est un ver qui réside à un moment de son cycle de vie dans l'intestin du porc, mais ça peut aussi contaminer l'homme. Et ça va provoquer des douleurs abdominales, une obstruction intestinale, voire de la malabsorption.
Bon appétit, bien sûr.
Bon appétit pour ceux qui mangent. Alors, attendez, imaginons. Un ver parasite qui va affecter son hôte et l'empêcher de s'alimenter de quoi que ce soit d'autre que de sang. Ce ver pourrait aussi, par exemple, se mettre dans les capillaires sanguins de la peau, ce qui pourrait expliquer la sensibilité au soleil du vampire, puisque au final, c'est pour le ver que le soleil serait fatal. Et en contrepartie, le parasite pourrait offrir une longévité surprenante à son hôte. Alors, dans ce cas, le vampire serait-il le parasite provoquant un état de vampirisme sur son hôte?
Alors, elle me plaise tes théories, mais j'ai quand même une remarque. Il y a plein de choses qu'on n'explique pas malgré ça.
C'est vrai qu'il y a des critères qui collent aux vampires, et je vois où tu veux en venir. Comment on peut expliquer qu'ils aient peur des signes de croix religieux, si c'est dû à une maladie ou à un parasite? S'ils sont morts-vivants, pourquoi leur planter un pieu dans le cœur? Bah, ça fonctionne réellement. Et puis le coup des miroirs, le fait qu'il n'ait pas de reflet, c'est assez insensé. À tout cela, j'aurais envie de répondre avec la citation suivante, qui est « Chasser le surnaturel, il revient au galop ». Et surtout, si les vampires sont en réalité des femmes et des hommes malades ou parasités, ne devrions-nous pas avoir un regard un peu plus empathique sur leur situation ?
Eh ben si, on pourrait.
On pourrait.
Il y a tellement de choses à faire.
Ils subissent leur état. Et pour ceux qui veulent explorer la question de la contamination, de l'état de vampirisme, il y a du coup le roman « Je suis une légende » de Richard Matheson qui vraiment, vraiment est super intéressant sur cet aspect-là. Et puis, les représentations de vampires, on en a tous déjà vu à droite, à gauche, dans les romans, dans les films. D'ailleurs, j'ai un très mauvais film à vous conseiller, mais c'est un peu un plaisir coupable, « Dracula Untold ».
À ce moment-là.
Ouais, c'est mauvais, c'est mal joué vraiment. Mais je sais pas, il y a un côté un peu, on va au fond du délit, on va au fond du stéréotype, on prend tout ce qu'il y a autour du vampire, on en fait un film qui va marcher pas du tout. Et il peut être marrant à regarder. Sinon, en film, il y a aussi l'adaptation du roman qui est pas mal.
Et Windy, effectivement, que c'est mauvais. Elle signalait tout à l'heure que Régis dans The Witcher dit que ce sont des foutaises. Et bonsoir à lire.
Bonsoir à lire aussi.
Salut lire.
Il y a tellement de monde dans cette émission un jour.
À force.
À force.
Pour le coup, t'as fini ta chronique.
Ouais, je voulais juste faire un point pour présenter. C'était juste une discussion vraiment. Vous passez un peu et puis échanger sur les références.
Il y en a plein en fait.
Il y en a plein en jeu, en roman, en manga.
En roman. Ouais, on a ça. C'est un jeu vidéo ça.
Un jeu vidéo. De Dontnod, ouais. Là, on est sur la musique de Vampire.
En roman, alors j'ai plus l'auteur, mais on a Sherlock Holmes contre Dracula, où on a tout un passage justement où le parallèle avec la maladie est fait, puisque Sherlock Holmes visite un lieu où on parque des sidéens, et le vampire se nourrit en fait de ces gens malades du sida.
Ok, d'accord.
Il y a plein de parallèles. Mais non, lire. Tu pourras reprendre le début en podcast juste après l'émission.
Fallait être à l'heure.
Je vous propose là de faire d'enchaîner tout de suite avec une rencontre qu'on a faite à Langer Geek Fest avec avec Nolwenn. Il y avait un type qui avait l'air de s'ennuyer comme ça. On lui a tendu un micro.
Il y avait personne avec lui. Il était tout seul, le pauvre.
Et puis. C'est qu'elle est même pas là.
T'as pas l'interview?
Non, sérieusement.
Meilleur teaser du monde. Dans deux semaines.
Ah bah super.
Eh ben on la diffuse dans deux semaines. Quelle truffe, mais alors quelle truffe.
Oh là là.
Eh, si vous voulez faire une émission de radio, la faites pas avec moi. Hein. Je suis mauvais.
Oh là là.
Mais tu faisais comment quand t'étais tout seul avant?
Oui.
Ça se passait comment? Oh non, c'est nous.
Voilà.
On le maudit.
Vous êtes des maladies et vous m'avez parasité.
C'est pas ça, je pense qu'on le perturbe.
Ah ouais, on est trop marrant pour lui.
Oula.
Oula là.
Eh ben non mais on va faire une petite pause musicale dans ce cas-là. Je tente un truc parce que du coup on a plein de techniques. Je fais des bêtises en plus, ça marche pas. Parce qu'on a plein de techniques et je veux que ça marche, donc on va essayer. On va faire une pause musicale avec Grimm's I Wanna Be Software sur le 101.5 de Radio G. Et ça marche pas. On va le faire autrement.
On doit la chanter, c'est ça? Oh, je suis pas
prêt. Non, je l'ai là. Allez, on se retrouve tout à l'heure sur le 101.5 de Radio G.
I wanna be software, I wanna be code.
Wannabe Software de Grimms sur le 101.5 de Radio G. Toujours avec le meilleur accent anglais du monde. C'est toujours ça, beau micro. Et vous dites plus rien.
Non, mais en fait, j'étais choqué que tu relances comme ça sans entendre de gamins qui fait 101.5.
Je peux mettre des gamins qui font des bruits bizarres.
T'allais menacer des enfants dans la rue, c'est ça pour qu'ils disent. C'est des enfants?
Dites des trucs, les enfants.
Radio G. www.radio-g.fr.
Oui, merci Timmy. Allez.
Oh, j'ai l'impression que c'est un peu cringe en vrai.
Tu prends les bonbons et tu reviens plus tard.
Oh, oh.
Tu veux monter dans ma camionnette radio?
Non, on arrête ça tout de suite. On arrête ça tout de suite.
Timmy, où est-ce que tu es? Radio G 101.5.
Ah là là. Non, mais c'est qu'en plus, j'ai envie de faire des vannes comme ça. Je regarde un youtubeur en ce moment qui s'appelle 12 Parsec. Je sais pas si ça vous parle.
Non.
Le mec fait des critiques de films, mais il a décidé de faire un personnage le plus beauf, misogyne, raciste possible, et ça passe trop bien.
C'est souvent le cas, tu vois, quand il y a Mathieu Sommet qui faisait ça. Il y a, je sais pas si tu connais, c'est Not Serious qui fait ça aussi.
Eh ben, faudrait que j'aille voir.
Not Serious, trop bien.
Pas faudrait sérieux, en français.
Pour ceux qui... Il y a Lire qui fait bah. Mais alors,
est-ce qu'on a son adresse?
Je pense qu'il fait un AVC.
Parce que s'il fait blage, c'est pas pareil.
Non, c'est pas...
D'accord.
Je pense qu'il rigole.
C'est d'accord. Possible, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on vous a grillé, Owen. On sait que vous êtes aussi maman de. Voilà.
Maman de, le retour.
Du coup, c'est maman de.
Maman de deux.
De, le retour. Allez, on reprend un petit peu de sérieux. On va repartir avec une interview qui a été réalisée par moi-même. Blahage marche aussi pour lire. Bah, pas de problème. Puisque j'ai fait une interview de Merlin qui est l'auteur de Wall of White publié chez OBA Édition, dont on a fait une première partie de l'actual play et qu'on va pouvoir enchaîner à partir de la semaine prochaine avec la seconde partie de l'actual play pour finir ce scénario pilote. Et on se retrouve juste après cette interview de Merlin.
Salut. On va parler ensemble de Walla Wide, mais est-ce qu'avant, tu peux te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu en es venu au jeu de rôle?
Alors, ce qui va te surprendre, c'est que je m'appelle Seb.
Très beau prénom.
Ouais, n'est-ce pas? Donc ça, c'est mon nom de baptême, enfin mon prénom de baptême. Dans le monde ludique, donc je réponds plus facilement au surnom de Merlin, en tout cas. Je suis fonctionnaire d'État, je travaille pour un ministère que les gens n'aiment pas beaucoup.
Le ministère des Impôts?
Voilà, pour ne pas les citer. Je suis assistant informatique, donc je gère entre guillemets les pannes et les dépannages. Sinon, je suis pratiquant de sabre laser et je pratique le jeu de rôle et le jeu de plateau depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Donc ça commence à faire presque les deux tiers de ma vie.
Est-ce que tu as des gammes de jeux que tu aimes beaucoup, des licences par exemple auxquelles tu te dis j'aurais beaucoup de mal à m'arrêter de jouer à ces gammes-là?
Ah, alors ça c'est pas une question facile parce qu'en fait il y en a plein. Ma gamme de cœur, mes gammes de cœur, les deux avec lesquelles j'ai débuté principalement, c'est Star Wars, parce que ça a été mon premier jeu de rôle au début des années 90. Et le deuxième, c'est L5A. Après, j'en ai d'autres qui sont des jeux que je maîtrise pas forcément, mais auxquels j'adore jouer. Il y a des univers qui sont vraiment, vraiment sympas. Il y a Agon, qui est un très vieux jeu, qui mériterait une réédition. C'est du médiéval fantastique onirique, avec une forte présence magique. Et c'est un jeu d'origine française, puisque les romans ont été écrits par un auteur français, Mathieu Gabory. Et ça reste vraiment un des jeux les plus... qui me tient toujours à cœur. Après, il y en a plein d'autres. Je vais pas tous les énumérer, parce que...
Sinon, il faudrait une émission complète pour énumérer tout ça, j'imagine.
Exactement.
Tu me disais que tu avais commencé sur du Star Wars. Comment s'est passée ta découverte du jeu de rôle?
Par hasard. Comme beaucoup de choses dans ma vie, mais sans rentrer trop dans le détail, en fait, en rentrant du lycée, je passais systématiquement devant une boutique de jouets. C'était Jouet Club à l'époque, je crois. Et un jour, je rentre dans la boutique et je vois des bouquins Star Wars qui sont posés sur une étagère. Je commence à feuilleter, je fais « Ah putain, c'est une mine d'informations, ces bouquins-là !» Du coup, je finis par les acheter. Et je me rends compte en fait que c'est un bouquin de jeu de rôle, enfin trois bouquins parce qu'il y avait les deux, il y avait le bouquin de base et deux suppléments. Et je commence à lire ça, et je découvre ça avec des yeux écarquillés, et je commence à lire, puis même dire tiens, ça pourrait être sympa d'essayer. Et du coup, je lance ma première table qui était un désastre. Hein, personne, en tant que MJ débutant, des joueurs qui connaissaient pas le jeu de rôle, ça a été catastrophique. Et puis après, je suis rentré dans une asso, et là, j'ai commencé à jouer et à maîtriser Star Wars de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus soutenue. Et la qualité a fini par être un petit peu plus présente, et ça m'a tenu pendant quelques années.
T'as joué en continu depuis cette période, ou tu as eu quelques interruptions ?
J'ai eu très très peu d'interruptions, très très peu. Je suis toujours resté proche des potes que je me suis fait à l'époque, donc à La Roche-sur-Yon, quand j'ai commencé le jeu de rôle. Donc comme je revenais, même quand je suis parti faire mes études à Nantes, je revenais régulièrement à La Roche, donc je continuais à jouer le week-end. Après, je suis parti à Paris pendant très longtemps, j'ai vécu 7 ans à Paris, et je rentrais régulièrement, je jouais aussi avec des potes à La Roche, et j'ai monté une table de JDR sur L5A justement à Paris, avec des copains du foyer dans lequel j'étais. Et on a joué pendant presque 5 ans à L5A là-bas, de manière pas forcément hyper régulière, mais soutenue aussi. Et après, je suis passé au Mans, j'ai joué un tout petit peu moins quand j'étais au Mans, parce que je rentrais moins souvent, mais j'ai continué à jouer quand même. Et puis là, j'ai découvert l'EGN et la reconstite médiévale, donc ça me bouffait du temps aussi. Plus l'escrime médiévale, en passant. Et voilà. Et depuis que je suis revenu à La Roche, par contre, je joue très très régulièrement.
Oui, donc jeu de rôle et aussi ce qui tourne autour, hein, je veux dire.
Ouais, jeux de plateau, oui. Les jeux de plateau, je commence aussi à en avoir une belle collection, donc ça n'arrête pas de ce côté-là non plus.
J'inclus le GN dedans parce que c'est une sorte de jeu de rôle en fait.
Ouais, le Grandeur Nature, c'est ça. Du coup, je suis moins passionné parce que ça demande beaucoup plus de logistique, de patience et de temps. De souffrance aussi, donc non, il y en a certaines qui ont été des souffrances, mais ouais, non, c'est un truc intéressant à faire au moins une fois, je pense.
En tant que créateur de jeux de rôle, Wallowide, c'est ton premier jeu?
Ça sera le premier à être édité. J'en ai fait un ou deux qui sont très 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 peu développés, où c'était plus du hacking pour pouvoir jouer dans certains univers que j'ai fini par abandonner et même perdre, parce que je serais incapable de remettre la main dessus aujourd'hui. Le tout premier que j'ai commencé à écrire, c'était le Donjon de Nahulbeuk. Et par contre, je parle de fin 80... Non, début 2000, je pense. Début 2000, donc c'était bien avant celui qui a été édité après par la suite par...
L'officiel par Pen of Chaos.
Après, il y en a eu quelques autres. J'en avais commencé un, j'en avais bien entamé sur Battlestar Galactica, que j'ai fini par abandonner, par perdre aussi.
Le jeu de rôle et la création, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que, par exemple, tu peux nous parler maintenant de la création, de la genèse de Wallowide? Tu commences où tu veux.
Alors... Wallowide, c'est né d'une discussion avec un de mes comparses de JDR sur Discord. Je suis chroniqueur sur la chaîne Geek Power, et en général, après l'émission, lundi soir, on se retrouve à la taverne pour discuter. Et ce soir-là, je ne sais plus comment on en est arrivé à discuter d'une série qui s'appelle Longmire, qui était diffusée à l'époque sur Netflix, qui est une série policière qui se passe dans le Wyoming, où on suit en fait les péripéties du shérif et de ses adjoints. C'est une série qui est plutôt sombre, avec une teneur sociale assez pesante. Et j'ai vraiment adoré cette série. Je me suis aperçu après qu'en fait la série était issue de romans qui sont écrits par un certain Craig Johnson, qui vient d'en ressortir un en français là cette semaine, la semaine dernière. Et du coup, je discutais de la série avec Freux, donc mon comparse, et on se dit tiens, ça pourrait être sympa de se faire un petit JDR dans ce, dans, dans ce milieu là donc jouer des adjoints du shérif qui mènent des enquêtes dans un cadre très très rural du fin fond du Wyoming. Et puis je commence à bosser dessus, je commence à écrire machin, et puis un soir on se remet à discuter de ça et il y avait des oreilles un peu indiscrètes qui traînaient ce soir-là. Un éditeur de jeux de rôle, Patrick pour ne pas le citer, d'OBA Édition. Et du coup, il me prend à partie en me disant il faut que tu me parles de ton truc, ça m'intéresse, j'aime beaucoup l'approche que tu as, donc OK, donc on discute. Et il finit par me proposer d'éditer le jeu, tout simplement. Donc forcément, moi je m'y attendais pas enfin c'était pas forcément dans mes prévisions à terme, mais les choses, de fil en aiguille, en fait, on a commencé à bosser ensemble, à réunir une petite équipe et puis à sortir le premier supplément, donc c'est pas un supplément, c'est le premier livret, donc le livret découverte de Wallowide, l'épisode pilote qui sert en fait à teaser un petit peu le jeu de rôle en attendant son édition prochaine.
Ça t'a pris combien de temps, le temps d'écriture de ce jeu de rôle-là ?
Alors, il est toujours pas fini, hein. Clairement pas. Le livret, c'était l'affaire de quelques soirées, quelques dizaines d'heures de travail. Le bouquin de règles, parce que j'ai essentiellement écrit le système de règles, ça m'a pris quelques soirées aussi. Là, pour l'instant, j'en suis pas à 50% d'écriture. Pas tout à fait. Donc il m'en reste encore un peu. Il faudrait que ça soit prêt en mars, ouais. Donc, sachant qu'on lancerait probablement, enfin, on va lancer le financement participatif le 21 mars, donc au printemps.
Il y a un kit d'initiation qui existe, qui a vécu en convention. Qu'est-ce que tu as comme retour sur ce kit pour l'instant ?
Eh ben, je, sans aucune prétention, aucun retour négatif pour l'instant. J'ai dû maîtriser, je sais pas, presque une vingtaine de fois le scénario. Et j'ai pas de retour négatif. J'ai eu pas mal de discussions avec des joueurs qui avaient des affinités avec le milieu policier. Donc ils m'ont fait quelques recommandations, quelques précisions sur des détails. Mais d'une manière générale, les gens ont plutôt apprécié l'aventure. Alors sachant que je suis pas 100% satisfait du scénario, parce que il n'est pas écrit de la manière dont je le fais habituellement. C'est un scénario qui est fait pour vraiment pour teaser le jeu. Donc il est construit de manière un petit peu trop narrative et un petit peu trop dirigiste pour faire simple. Et du coup, j'ai parfois toujours un peu tendance à pousser mes joueurs dans une direction sans leur laisser trop de possibilités d'aller ailleurs. Et c'est pas ma façon de faire habituelle. Donc c'est même plutôt à l'opposé de ce que je fais habituellement, notamment sur L5A ou sur Star Wars, où je laisse au contraire les champs complètement ouverts et je laisse mes joueurs faire à peu près ce qu'ils veulent. On est sur une enquête, donc je les garde sur les rails, on va dire, jusqu'au dénouement.
C'est un épisode pilote, donc le but c'est de les mettre sur les bons rails, les bons réflexes, et de leur lâcher la bride, laisser l'ouverture par la suite.
Exactement. En fait, c'est complètement le rôle de ce scénario-là. Donc, c'est de présenter l'univers de jeu. Donc là, en l'occurrence, bon, c'est le Wyoming contemporain. Hein. On est en 2019, dans une petite ville très rurale où il y a 10 000 habitants. Et donc, les quatre protagonistes, parce que je fais quatre pré-tirés qui serviront pour la campagne aussi qui viendra avec le livre de base, ces quatre protagonistes se retrouvent à Wallowide pour une bonne raison, et ils se retrouvent embarqués dans l'enquête suite aux événements qui se passent au début du scénario. Et ça aussi, c'est pas forcément évident pour tous les joueurs, mais je pense que quasiment la totalité m'ont fait à peu près le même retour. C'est que les personnages sont suffisamment bien écrits pour que chaque joueur y trouve son compte. Et ça, ça c'est un compliment que je prends très à cœur, parce que écrire des personnages, c'est compliqué. Leur donner un caractère, un passif qui soit intéressant à lire, ben c'est compliqué. Et là, a priori, j'ai réussi à faire tenir le pari pour les quatre. Donc c'est plutôt cool.
Oui, je les ai lus, je les connais. Je voulais en parler un petit peu. Ce sont des personnages qui ont un vécu, un passif. Je parlerais presque même de pathos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont chargées émotionnellement. Est-ce que ça fait pas mal à intégrer, mais ça sera utilisé tout au long de la campagne?
C'est ça. En fait, j'ai créé le fait d'avoir étoffé suffisamment l'histoire des personnages, c'est dans le but de faire en sorte que tout leur passé, tout leur passif, leur pathos aussi, parce qu'ils ont aussi des traumatismes et des tares, des choses comme ça. Tout ça doit un jour, enfin au fur et à mesure des épisodes, ressortir de temps en temps. Donc l'idée, ça va être au cours de ces épisodes de les mettre face à des situations qui les mettront en difficulté. Pas parce qu'ils n'ont pas les compétences pour résoudre l'affaire, mais juste parce qu'ils sont touchés dans leur personnalité, dans leur conscience même, par les événements qu'ils affrontent. Et il y en a quatre, avec quatre degrés de pathos différents. Et du coup, les quatre auront droit probablement à un ou deux épisodes qui vont tourner autour de leur personnage un petit peu plus que les autres, et qui les mettront un peu plus en difficulté que les autres, histoire de faire ressortir justement ce côté ce passif et ce côté pathologique.
On a parlé un peu des personnages, un petit peu de la région, on a vu un peu ce qui allait se passer. Mais comment on joue à Wall of Wild?
En gros, j'écris une enquête. En général, c'est une enquête qui va toucher le côté très américain, très rural de la société du comté de Fairmont, parce qu'en fait, on va être amené à travailler sur tout le comté. Wall of Wild n'étant que la capitale du comté, hein, entre guillemets, okay. Et enfin le siège du comté, on va dire. S'il n'y a pas de capitale. Bref. Les quatre personnages qui sont incarnés deviennent adjoints du shérif ou shérif. Ça dépend des circonstances. Et donc, du coup, ils vont être dépêchés sur des enquêtes un peu particulières. Alors, on n'est pas sur du chien écrasé ou de la disparition d'un vol à l'étalage dans un... Non, on est vraiment sur des enquêtes un petit peu plus cossues, on va dire. Et donc, j'écris l'enquête. Après, j'essaye d'apporter dans l'enquête des éléments, des petites choses à droite, à gauche, qui vont titiller un petit peu les personnages, qui vont les amener à peut-être s'intéresser plus à quelque chose qui n'a rien à voir avec l'enquête, mais qui va les affecter plus personnellement. Et c'est là où on va être plus dans l'esprit d'une série policière américaine, c'est-à-dire que j'essaye d'amener les personnages à discuter entre eux de ce qui les affecte. De ce qui peut les traumatiser, de ce qui peut les interroger même sur leur propre connaissance, leur propre croyance. En gros, l'idée c'est que cette enquête les pousse à se livrer eux-mêmes aux autres, à discuter en fait et à faire évoluer leur histoire, comme dans une série policière américaine. J'aimerais bien. Et là, c'est très très compliqué parce que je ne suis pas un expert en écriture de scénario. J'adorerais pouvoir toucher, ne serait-ce que du doigt, la qualité d'écriture de certains scénarios de Lucifer. Je ne sais pas si tu connais la série.
Jamais vu, mais je connais.
En fait, les scénaristes prennent un malin plaisir à écrire des enquêtes qui répondent aux préoccupations à l'instant T de Lucifer. Lucifer est tout le temps en train de se battre contre ses propres démons. Et chaque enquête, en fait, lui donne des pistes ou des conseils, ou au contraire, lui met des bâtons dans les roues dans ses propres luttes personnelles et intérieures. Et ça, c'est super intéressant comme manière d'écrire. Mais c'est très, très compliqué. Et à rendre en jeu, ça doit l'être encore plus. Donc, j'essaie plutôt d'écrire à la manière de scénarios plus... un peu plus ouvert, des enquêtes un peu plus ouvertes, mais qui peuvent toucher les personnages par leur thématique, notamment leur thématique.
Radio G 101.5 FM.
Pas touché la farine, Timmy.
Non, on lui a donné des bonbons, il est revenu. Et c'est fini.
Attends, il a quand même fait un Radio G.
C'est... Ouais.
Un jour, il faudra quand même aller vérifier dans les caves de Radio G.
Non, faut surtout pas. Surtout pas.
J'espère que
je rappelle que la radio a 40 ans.
J'espère que le patron de Radio G écoute pas.
Joker. Bon, allez, on a fini de raconter des âneries. Il nous reste 20 minutes. Et on va pas passer 20 minutes à dire des âneries. On va faire un petit court instant musical et on se retrouve juste après. Encore une nouvelle sélection de Richard qui nous a sélectionné quoi, Richard?
Du Magoyonde, c'est la question.
Et c'est quoi la chanson?
Le manoir de Zach Trash.
Et ben c'est tout de suite sur le 101.5 de Radio G. On se retrouve tout de suite après.
Se fit entendre. Le comte s'écroula sur le sol de sa chambre. Les convives attendent leur renommée. Le règne du maître vient de s'achever.
Meurs pour manoir. Le pain de la paix gringonise dans le noir. Meurs pour manoir. Les gargouilles murmurent cette sombre histoire. Meurs pour manoir. Serpents et ghouls sont rassemblés. Le sang du vampire a coulé. Mais qui a tué Zach Trash?
Un cri retentit dans la nuit noire. La veuve du maudit condamne son manoir. Tous les invités deviennent suspects. Où est l'assassin? Par qui le sang a coulé?
Meurtre au manoir. Le pain de la paix gringonise dans le noir. Meurtre au manoir. Les gargouilles murmurent cette sombre histoire. Meurtre au manoir. Serpents et ghouls sont rassemblés. Le sang du vampire a coulé. Mais qui? Mais qui a tué Zach Trash?
Les gargouilles murmurent cette sombre histoire.
Meurtre au manoir.
Alors, petite anecdote pour Maman 2. Sachez qu'ils ont fait une reprise rock du Pudding à l'arsenic. T'as pas ton micro d'activé.
Oh, mais ça fait 5 fois vraiment que je...
Tu les comptes?
Oui.
Eh ben, 10, t'as droit à 10 minutes de temps toute seule. Tu parles.
Vas-y. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
Non, mais je voulais juste effectivement rappeler que...
ils ont fait une reprise.
Voilà, hein. Je sais pas si elle connaît le groupe My Goyon, mais voilà, ils ont fait...
Oui, elle connaît la reprise du Pudding à l'arsenic. Mm. Mais ils ont fait... pardon. Ils ont fait pas mal de reprises légèrement détournées. Ils ont refait Soyez Prêtes, où c'est pas des hyènes, c'est des ghouls.
Oui, c'est ça, en version métal.
En version métal, voilà. De toute façon, tout est mieux en version métal.
C'est vrai.
Même le métal en version... Non, rien. Laissez tomber. Mais qu'est-ce que t'as dans ta clé aujourd'hui, Richard?
Hein?
Pourquoi ça marche pas? Mais qu'est-ce que t'as dans ta clé aujourd'hui, Richard?
Dans ma clé USB cette semaine, je vous ai ramené une saga MP3 sportive, à savoir Pong. Mais c'est quoi une saga MP3? C'est une fiction audio téléchargeable, le plus souvent gratuitement, divisée en plusieurs épisodes, qui a été réalisée pour Internet. Créée par Ark et Johnny en 2010, soit 9 ans après le DDN, Pong est une aberration dans le monde de la fiction sonore. L'histoire de Pong suit la vie d'Arthur Gaudan, un talentueux joueur de tennis de table de 27 ans, devenu récemment célèbre. L'intrigue se déroule lors d'un tournoi national où la notoriété croissante d'Arthur suscite des tensions, notamment avec Charles Wind, PDG de Sport Store. Cette société sponsorise Daniel Firudet, un autre joueur renommé dont la popularité est éclipsée par celle d'Arthur. Pour protéger les intérêts de Sport Store, Charles Wayne tente de saboter la participation d'Arthur au championnat. Mais malgré les obstacles orchestrés par Sport Store, Arthur parvient à atteindre la finale du tournoi. Cette fiction nous propose de découvrir la confrontation ultime qui oppose notre héros à son rival, Daniel Firudet. Cette saga MP3 m'a mis une claque, et je vous explique. Après avoir fait du teasing quelques mois plus tôt, après avoir lancé un recrutement hors norme où chaque acteur du monde de la saga sphère pouvait s'intégrer facilement dans cette saga MP3, Ark et Johnny ont sorti leur saga MP3 d'un seul coup. Les 8 épisodes d'une traite. C'était du jamais vu. Et vous savez quoi? Eh bien, je m'en vais vous faire écouter ces 8 épisodes tout de suite. Je me permettrai, entre chaque épisode, de vous donner le titre de ceci. Vous êtes prêts? C'est parti. Épisode 1, le commencement. Épisode 2, agressive réponse. Épisode 3, l'espoir. Épisode 4, la tempête.
À tes souhaits, mon gars. Merci.
Épisode 5, retour en puissance. Épisode 6, l'avantage. Épisode 7, retour inattendu. Épisode 8, finale.
Mais qu'est-ce que je fais là?
Cette fiction audio est une masterclass et je pèse mes mots. Elle est connue dans le milieu de la saga sphère, pas en termes d'écriture, pas en termes de réalisation, mais en termes de communication qui a été fait sur ce projet. Et c'est depuis que cette saga MP3 est sortie que j'ai compris ceci. Lorsqu'on fait une création telle quelle, lorsqu'on la publie sur le net et qu'on pense qu'il y a juste à attendre des retours des auditeurs, des likes ou des commentaires, eh ben en vrai, c'est pas réellement fini. En réalité, vous avez fait que la moitié du travail. Une fois que vous avez publié votre œuvre, il faut la partager, créer de la promotion, rendre votre travail important et la porter plus loin que juste votre page internet, Insta ou autre. Il faut que vous communiquiez sur votre création, indiquer en quoi votre projet est fou, important ou vaut le coup qu'on s'arrête ne serait-ce que 42 secondes dessus. Si vous arrivez à ce que quelqu'un s'arrête juste ce temps-là, à savoir aussi longtemps que la durée de cette fiction audio, eh ben vous avez réussi le travail. Et 42 secondes, c'est 42 fois plus qu'un simple mouvement de scrolling. Vous pouvez retrouver cette fiction audio sur le site pongmp3.blogspot.com. Et si jamais cette chronique vous a plu, je vous recommande de me suivre via les comptes de la Team Javras sur les réseaux sociaux et de m'envoyer un petit message. Sur ce, je vous laisse. Bonne écoute.
Ben alors, je vous donne mon ressenti parce que quand je l' ai écouté celle-là et qu'il annonce qu'il va diffuser les 8 épisodes là comme ça, j'ai fait non mais et puis je me suis marré. Voilà.
Oui.
Ouais. Eh ben, faut faire. Ouais.
Tu veux que je te tease la prochaine?
Bah, est-ce que ce serait en rapport avec une interview qu'on n'a pas diffusée ce soir? Là, ça aurait été vachement cool, en fait.
Ah, je pourrais essayer, ouais. En plus, j'ai tout réécouté il y a pas longtemps.
Parce que c'est le moment où on va faire du teasing, parce que du coup, comme je me suis un petit peu beaucoup raté, on a fait une super interview. Enfin, non, je laissais Nolwenn faire, j'ai fait la technique et j'ai pas fait grand chose au final. C'est là où on voit les bons managers, en fait. C'est
qui? Tu as mon micro encore?
Hein?
Si, il y a ton
micro. Okay, ton micro.
Je m'entends pas assez, c'est pour ça.
Tu veux que je te mette plus de son?
Est-ce que oui. Tu veux plus de treble sur ta voix?
Treble.
Tu aimes ta voix comme ça? Oui, je la trouve très belle.
Oh, wow.
Du François Pérus.
Non, mais on se fera vraiment un jour, on se fera une partie en live à la Monde de Monsieur Fred.
Ah.
On écrira les scénarios, ça te rappellera beaucoup la mémoire arrangée, on aura des points de passage.
C'est quoi la mémoire arrangée?
Je sais pas.
C'est comme du rhum, sauf que ça fait moins mal à la tête. Je pense.
Le rhum fait mal à la tête à ceux qui sont pas habitués d'en boire.
Ouais, c'est ça. Buvez plus de rhum, ça fait moins mal à la tête. Non, j'ai rien dit.
Faites pas comme Seb, ne buvez pas d'alcool.
Je cite. On n'a pas droit de faire des blagues sur des petits enfants à 21h. Par contre, proposer aux gens de boire, c'est ok.
Buvez de l'eau.
4 verres par jour, minimum.
Oui, c'est ça. C'est la fête ce soir. Top la reprise de du Pudding Arsenic. Oh oui, Eowyn. Avec un petit lag. Voilà. Donc, on a fait une interview qui était cool. On va essayer de vous faire deviner aux deux personnes qui sont dans le chat.
Les fidèles.
On vous remercie, hein. Sinon, on se sent bien seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sans en dévoiler? C'est quelqu'un de vieux, déjà.
Si je me trompe pas, il a créé la deuxième saga audio française.
Oui.
Voilà. Donc c'est pas
donc
le premier.
Déjà c'est un super indice, c'est la deuxième saga audio française.
Et ça piège beaucoup de gens mine de rien.
Ça a été créé en 98.
Pardon?
Non.
2001.
Pardon. 2001. 2001. Voilà, c'est pas ça va.
Bah non, bah suis un peu aussi Matrix. En 2000.
Oui, non mais voilà.
Aïe. Non mais il a commencé à faire de la musique
Ouais.
Tain, à l'époque.
Elle était bien celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quelqu'un, moi c'est un truc qui m'a choqué, c'est que quand on le rencontre, on sait tout de suite qu'il a fait.
Ouais.
On pensait qu'il y avait besoin de tourner des potards et tout pour faire des voix, et en fait non. C'est sa voix de base.
Enfin, mais... Bon, il est 22h, je peux faire des blagues un peu trash.
Est-ce qu'il y a des enfants dans le chat? Non. Et il y a Jacqueline. Qui est Jacqueline?
Parce que ça parle de la mémoire arrangée juste avant.
Ah, ok.
Donc tu dis que la personne que t'as interviewé, dès qu'on le voit, on sait ce qu'il a fait, dès qu'on l'entend.
Dès qu'on l'entend surtout.
Ouais. Oui, bah excuse-moi, mais il y a des gens, dès qu'on voit, on sait ce qu'ils ont fait, comme Xavier Dupont de Ligonnès. Hein.
Oui.
Attends, tu ne parles pas de cette fierté nantaise, s'il te plaît. Hein?
Les enfants,
parce
on se calme.
Parce que c'était un génie dans le béton. Et dans le terrassement.
On s'arrête là. Voilà.
Génie du BTP.
On ne creuse pas.
Bah non.
Voilà.
On creuse pas, non.
Donc on était sur une interview à deviner. Voilà. Et ben écoutez, qu'est-ce que.
Et non, c'est pas un interview de Xavier Dupont-Ligonnès qu'on a fait.
Oui, ça a drifté. Je suis tout à fait d'accord. Ça demande un peu de sérieux dans cette émission.
Désolé.
Donc ce n'est pas une interview de Xavier Dupont de Ligonnès, ce n'est pas une interview de Richard non plus.
Non. Non, moi je vous parle pas de toute façon.
C'est une interview de quelqu'un que moi j'ai écouté au moment où il sortait les trucs au fur et à mesure. Et on dealait des CD gravés. Mais bien sûr, bravo lire, c'est John Lang. Donc on aura une interview, une belle interview de John Lang, dans 15 jours. Réalisé par Nolwenn avec brio.
Enregistré par Sébastien, parce que moi la technique.
Autant appuyer sur des boutons et puis voir ce qui se passe. Hein. C'est pas très compliqué la technique.
Alors pour ceux qui écoutent en podcast et tout ça, John Lang, aka Pen of Chaos.
Aka The Big Creator of The Donjon of Nahelbeuk.
Oui.
Aka Poc. Non, les enfants.
Les
non, stop.
Mordu
Je vais vous couper, voilà, je leur coupe leur micro. Maintenant, voilà, maintenant on est contre grandes personnes. Donc nous aurons effectivement Acapulco, mais non, lire, s'il te plaît. On... On se calme, les enfants.
Révolte!
Stop, stop, stop.
On n'est pas content.
Donc, effectivement, nous aurons une interview dans 15 jours de John Lang, le créateur du donjon de Nahuel Buck, qui nous a accordé un petit moment. On aura également le début de la dernière partie de Wallow Wide que nous avons enregistré, qu'il faut que je finisse de monter, et puis on aura au fur et à mesure des épisodes qui vont arriver des morceaux d'interview de Merlin pendant les épisodes de Wallow Wide. Donc bah voilà, j'espère que c'est un programme qui vous plaît. De toute façon, s'il vous plaît pas, ce sera la même chose quand même. Oui, Nolwenn.
Tu as toujours pas réactivé mon micro, je crois.
Si, si, si. Si.
On t'entend. Mais arrête, on t'entend.
Moi, il m'entend pas.
Oui.
Bon, pour la semaine, non, deux semaines, pardon. Oui. Sur quel thème?
Ah, t'as pas de sujet.
Ah, oui, non, j'ai pas de sujet. Il me faut du travail.
Il te faut du travail. Qu'est-ce qu'on peut te donner?
Il me faut des devoirs.
Comme bestiole un peu étrange. On a fait les mandragores, on a fait les mandragores. Eh ben, je vais toujours puiser en fait dans le dessin animé que je regarde. Est-ce que tu pourras arriver nous faire un truc sur le Cocatrix?
Oui. Bah oui.
Je vois pas ce que c'est.
Est-ce que parce que le Cocatrix est à la fois poule et serpent, c'est un animal ovipare?
Oh.
Voilà.
Donc, le mode de reproduction.
Ouais, ça me passionne les modes de reproduction.
Ouais, je vois ça, t'es un.
Mais petite dédicace à 12 par sec, hein, voilà, c'est merci. Bon, allez, il est l'heure qu'on arrête de dire des âneries. On a passé un bon moment ensemble. On va céder la place à Intoxica dans quelques instants. Lire, ça fait réfléchir.
C'est
oui,
c'est vrai.
Oui,
c'est on effectivement. Vit, on vit dans une saucisse.
On vit dans bon allez, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine sur la case de Seb. N'hésitez pas, hein, de 19h à de 19h à 20h, voilà. Et puis dans 15 jours, on se retrouvera pour parcourir et arpenter ensemble les voies du scénarium. Bonne soirée à tous.